Chapitre 46. Je ne pense plus. J'agis. J'entends sa voix. La voix de Lindy, pour la première fois depuis des années. Et ça déclenche aussitôt un raz-de-marée d'émotions. Horreur, colère, culpabilité, terreur. Il ne faut pas que j'y pense. Je donne un grand coup de pied qui l'atteint sur le côté de la tête. Sa main se desserre autour de ma cheville. Je fuis. Pas de pensée. Juste une panique aveugle. Je dévale les escaliers, le cœur affolé, le sang battant dans mes veines. Dans un coin de ma tête, une voix intérieure me hurle de m'arrêter, de l'affronter, de me battre. C'est le moment dont j'ai rêvé, que j'ai même imaginé pendant chacun de mes cours d'autodéfense et de tir sur cible. Enfin, un nouveau duel avec Lindy. Sauf que cette fois-ci, je faisais ce qu'il fallait. Je ne lâchais pas le couteau de cuisine. Je n'étais pas plaquée au sol pendant qu'elle, à cheval sur ma poitrine, décrivait les sévices qu'elle allait m'infliger. Non. Dans mes rêves les plus fous, je terrassais la bête immonde, comme j'aurais dû le faire des années plus tôt. Il me reste des promesses à tenir. Mais la vérité, c'est qu'au bout de 5 ans de préparation, je ne suis toujours pas allée en Floride pour retrouver Lindy, parce qu'elle me terrorise encore. Son rire descend jusqu'à moi, au moment où je tourne sur le premier palier au triple galop. Sous ma main, la rampe en bois a du jeu. Elle aurait bien besoin d'être réparée. Une vieille maison. J'avais raison sur ce point. Il faut que je trouve la sortie, que je rejoigne le rez-de-chaussée, que je prenne la grande porte et que je m'enfuis dans la nuit. Laissant derrière moi Stacy Summers, avec la fille adorée de Jacob, sa complice préférée. J'arrive en bas. Plus d'escalier. Juste un carré sombre. Sans lumière, difficile de me repérer. J'imagine qu'il s'agit d'un petit vestibule. Un peu comme celui de mon immeuble. Mes yeux s'habituent à l'obscurité et je vois une porte ouverte à ma droite, qui donne sur les ombres plus claires d'autres pièces. Et une autre ouverture à ma gauche qui mène encore à un couloir. Je ne comprends plus. J'imaginais un plan de maison classique à Boston. Dans ce cas, les escaliers auraient dû être à une extrémité du bâtiment, pas au milieu. Ce n'est sans doute pas une construction de ce genre. Autrement dit, je n'ai en fait aucune idée de l'endroit où je me trouve ni de l'emplacement de la porte d'entrée. Allez au plus logique. Les portes extérieures donnent généralement sur les escaliers, donc il devrait y avoir une sortie pile en face de moi. Autant commencer par là. Je m'avance, les bras tendus et cherche à tâtons une poignée. Derrière moi, j'entends l'escalier craquer. Lindy commence sa descente. Allez, allez, allez! Il doit bien y avoir une porte, une issue quelconque. Pitié ! Je sens des panneaux de bois sous mes doigts et, à ma gauche, le fin volume d'un gond. Mes mains se déportent aussitôt vers la droite et, attention, mesdames et messieurs, une poignée. Je l'ai trouvée. Je tourne, je tire et... Rien. La porte ne s'ouvre pas. Ne bouge pas d'un millimètre. Fermée à clé. Mes doigts explorent rapidement autour de la poignée, cherchent des loquets à ouvrir, des verrous à tirer. J'en trouve un, puis deux. De nouveau, je tourne la poignée, de nouveau, je tire. La porte bouge, vibre sur ses gonds, mais ne s'ouvre pas. Il reste un loquet, un verrou, une chaîne, quelque chose que je n'ai pas encore repéré. Me souvenant des portes à l'étage, je cherche tout en haut, en tendant le bras. Et je les trouve. Deux autres verrous fermés à double tour en haut du montant. Un gémissement m'échappe. Les escaliers grincent derrière moi. Je n'ai plus le temps. Elle arrive. Elle est là. J'ai une ligne de métro, annonça Didi à Neil au téléphone. Isier et Larissa avaient quitté le bureau pour laisser à Didi et Keynes la place de travailler. Elle donna l'information à Neil, entendit le grattement du crayon sur le papier pendant qu'il prenait des notes. Croise ça avec nos autres paramètres, les destinations fréquentes de Golding dans son GPS et sors-moi l'adresse.
Ça ne m'aide pas.
Comment ça ne t'aide pas?
Mais rien n'a de sens.
Son requin préféré semblait exaspéré.
Ça fait 10 fois que je repasse la liste des destinations fréquentes. Aucune ne correspond à ce qu'on cherche, avec ou sans ligne de métro dans l'équation.
Mais ça n'a pas de sens.
C'est bien ce que je te disais.
Il a pourtant dû prendre sa voiture. Elle s'arrêta et refit pas à pas leur raisonnement. En face d'elle, Keynes hochait la tête d'un air encourageant. La nuit, O'Golding a enlevé Flora. Il l'a assommée et il l'a mise dans sa voiture pour la ramener chez lui, on est d'accord.
Il l'a assommée,
souligna Neil.
Donc, elle ne sait pas comment il l'a emmenée chez lui. Elle était inconsciente.
Mais tu vois ce trajet dans son GPS, non? Ça doit être le dernier.
Attends. D'accord. Vendredi soir. La voiture est allée du centre-ville à son domicile.
Le kidnapping de Flora. Pour lequel, forcément, il s'est servi de sa propre voiture. On ne peut pas emmener une fille inconsciente dans le métro ou la balancer dans un taxi, donc il est obligé de prendre sa voiture au moins pour la première partie de l'enlèvement.
D'accord.
Convint Neil. Parking public. Dit Keynes tout bas en face d'elle. Didi approuva et répéta ces mots dans le téléphone. Si Devon passe son temps à aller à droite ou à gauche, il doit avoir besoin de se garer. Est-ce qu'il aurait des abonnements à des parkings, des cartes de membres, je ne sais pas? Un temps. Elle entendit Neil parler à quelqu'un à l'autre bout du fil, sans doute Carole.
Pas de paiement mensuel à un parking,
répondit-il bientôt. Ah bon? Mais ça n'a...
pas de sens.
Neil et elle soupirèrent en cœur. Ils étaient à 2 doigts de trouver. Didi le sentait. Un dernier chaînon. Une dernière déduction et il pourrait... Flora et Stacy Summers étaient à la merci de la fille de Jacob Ness. Didi en avait le frisson rien que d'y penser.
Oh, oh, oh,
dit brusquement Neil. Quoi?
Carole vient d'avoir une bonne idée. Peut-être que notre endroit est lié à un autre.
Comment ça?
L'adresse. Peut-être qu'elle correspond aussi à autre chose. Par exemple, on ne remarquerait pas qu'il va au tonique, n'est-ce pas? Parce que c'est son lieu de travail, c'est logique qu'il y aille.
Il n'a pas séquestré 3 femmes dans un nightclub, dit Didi en levant malgré elle les yeux vers le plafond noir. Elle secoua la tête. Elle était ridicule. Ils étaient venus en pleine journée, quand la boîte, une fois les lumières noires éteintes, était une coquille fatiguée, mais où l'on s'activait beaucoup. Avec le nombre de personnes qui allaient et venaient à toute heure pour le ménage, l'approvisionnement, la mise en place, il n'y avait aucune chance que 3 captives passent inaperçues.
Donc, pas sans lieu de travail,
dit Neil.
Mais une autre destination logique qui n'attirerait l'attention de personne.
Didi trouva. La salle de sport. Il passe sa vie à faire de la musculation et la plupart de ses immenses clubs ouverts 24 heures sur 24
se trouvent à South Boston, sur la côte,
se souvint Neil.
Là où, sous prétexte de rénovation urbaine, on démolit la moitié des bâtiments pendant qu'on reconstruit l'autre. J'ai une adresse pour le club de sport. Et tiens-toi bien, Carole dit que ça se trouve juste à côté d'immeubles à l'abandon qui doivent être détruits.
Il donna l'adresse. Merci, Neil, dit Didi avant d'ajouter de bon cœur. Merci à toi aussi, Carole. Elle raccrocha et partit avec Keynes.